Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Séance live, l'actu cinéma des blogueurs.
L'actu cinéma des blogueurs, et on a le plaisir de retrouver à nouveau Stéphane Valette de l'œil cinéphile 06. Rebonjour Stéphane.
Rebonjour Betty.
Alors Stéphane, vous avez choisi de nous parler de Blade Runner 2049. C'est Alexis Yomei qui nous en a parlé déjà la semaine dernière de ce fameux Blade Runner. C'est dans les salles depuis le 4 octobre, c'est Denis Villeneuve qui l'a réalisé. On retrouve Harrison Ford, mais on retrouve à ses côtés Ryan Gosling et Jared Leto. Alors Stéphane, attention à la question. Coup de cœur ou coup de gueule?
Alors, nouveau concept, c'est pas tout à fait un coup de gueule, parce que vraiment le film est très bon. C'est un coup de cœur séquentiel, voire partiel.
Ah, enfin, c'est comme le soleil, quoi, c'est ça?
Voilà.
Et non, aujourd'hui, mais... il fait beau partiellement.
Non, mais le film est un peu sombre, donc du coup, il y a pas mal de, on va dire, de couleurs. Mais c'est-à-dire que séquentiel, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont bluffantes et maîtrisées, notamment une scène d'hologramme avec une femme donc artificielle qui partage, entre guillemets, la vie du Blade Runner qui est joué par Ryan Gosling. Et en même temps, il y a aussi une adhésion complète à la facture visuelle du film qui est à la fois un héritage de l'univers SF de Ridley Scott, mais en même temps, il y a la patte de Denis Villeneuve. Parce que lui, il a vraiment une vision, on va dire, un peu cérébrale. Donc ça, c'est pas gênant. Mais donc, il y a aussi un gros travail sur les couleurs. On passe de l'argent au tout début. On passe ensuite au bleuté, à l'orangé, parce qu'on pense que c'est un peu post, on va dire, guerre nucléaire ou blackout. Il part de blackout. Donc tout cet univers SF est vraiment bluffant. On est vraiment dedans.
Alors Alexis nous a dit qu'il fallait revoir l'ancien.
Pas forcément, parce que moi l'ancien, c'est un de mes films que j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai bien en tête. Et donc du coup, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une filiation entre les deux, parce que c'est toujours des thèmes qui sont un peu récurrents et qui reprennent l'idée qu'est-ce qui définit un être humain et qui était présente dans l'œuvre de départ, qui était le roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Et en fin de compte, donc c'est il y a plein d'idées, de sous-idées qui font, en fin de compte, est-ce que les androïdes peuvent avoir une âme, peuvent vivre une histoire d'amour, peuvent, voilà. C'est toute cette trame un peu SF. Là, c'est totalement maîtrisé, c'est vraiment immersif. Et le problème, c'est que, après, il y a un choix vraiment de la part du monteur et Joe Walker et du réalisateur, c'est de faire un étirement des plans. C'est-à-dire que le récit aussi, va prendre son temps. On va dévoiler, mais vraiment petit à petit, et sur une trame qui va être la problématique du film, on va y passer beaucoup de temps. Donc c'est un côté contemplatif qui peut en déconcerter beaucoup, parce que les plans sont quelquefois beaucoup trop longs. Donc c'est ce côté un petit peu intriguant au départ, des décors minimalistes et grandioses, parce qu'il y a beaucoup de plans naturels, il n'y a pas beaucoup de fonds verts, ils ont tourné ça en Hongrie. Et on voit vraiment que c'est travaillé, on voit vraiment que tous les plans ont été storyboardés au millimètre, parce que la mise en scène de Villeneuve, elle est top, il y a plein de petits détails vraiment qui font plaisir. Mais Villeneuve le dit lui-même, Blade Runner 2049, c'est un film d'art et essai avec les moyens d'un studio. Et du coup, quand on a une attente aussi forte par rapport à un film... les gens vont peut-être être déçus parce qu'il y a deux scènes et demie de d'action.
Ouais.
Au tout début, il y a aussi au niveau du casting, il y a des bons choix et puis d'autres qui sont un peu plus, on va dire, tempérés. Moi, j'ai pas trop aimé, par exemple, Jared Leto. Je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme. Et justement, à un moment donné, il y a un long monologue. On s'ennuie un petit peu, quoi, là-dessus, ça blablate beaucoup. Donc, ça perd un peu de sa puissance visuelle et au niveau des choix narratifs qui sont un peu longs.
Vous êtes en train de dire que c'est pas finalement un film d'action? Il n'y a pas beaucoup.
Ah non, c'est pas un film d'action. Blade Runner 2049 n'est pas un film d'action. Ça, c'est pas un scoop parce que il y a la première, une des premières scènes du film où ça, c'est un film, vraiment une scène d'action. Après, il y a le bras droit, donc, du personnage de Wallace qui est joué par Jared Leto, qui est une femme qui s'appelle Love et qui est une mauvaise réplicante, entre guillemets, et qui, elle, va avoir un petit peu un personnage mi-chemin entre Terminator et Matrix, on va dire, pour schématiser un petit peu. Et donc là, c'est une mauvaise, donc elle va tuer, il va y avoir des scènes d'action un peu vers la fin, mais c'est plus un film d'atmosphère, et comme il dit, c'est un hommage aussi au film noir. Donc film noir, ça veut dire privé, ça veut dire qui mène l'enquête. Donc on est plus dans le thriller d'anticipation. Mm-hmm. Ryan Gosling, il s'en sort très bien. Certains disent qu'il est un peu trop monolithique, mais du seul fait de sa propre nature, parce que dans le film, au départ, on dit que c'est plus ou moins un réplicant, puis après on sait pas trop. Donc il y a toute une intrigue comme ça de questionnement. Et puis il faut se méfier du syndrome Blade Runner, parce que le premier Blade Runner, quand il est sorti en 1982, il avait été taxé de film intellectuel, et puis il avait connu un échec aux États-Unis. Et au fil de l'eau, il est devenu un film référence.
D'accord.
Et je pense que peut-être.
Mais il y avait plus d'action dans le premier.
Dans le premier, il y a un petit peu plus d'action. Maintenant, pour dire qu'il y a un petit clin d'œil aussi, l'actrice qui joue Love, donc celle qui est censée un peu donner d'action, c'est une actrice néerlandaise, comme l'était Roger Hauer dans le premier, qui était néerlandais. Bon, ça, c'était, je referme le petit clin d'œil. Mais il y a, c'était aussi sur l'atmosphère quand même. D'accord. Parce qu'il pleuvait, on était dans un univers vraiment science-fiction nouveau, avec tous les hologrammes. Là, on revient aussi à ça, les hologrammes sur les immeubles. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Alors, pourquoi ça divise, là, en ce moment, un petit peu?
Ça divise parce que, je pense que le film est vraiment très long. Il manque, je pense qu'il dure 2h40 quand même. Hein. Donc,
oui.
Quand à un moment donné, l'intrigue patine un peu et qu'on ressasse un petit peu les choses, c'est sûr que ça peut désarçonner.
Ah, si on est en train de penser à sa liste des courses pendant qu'il y a le film,
voilà.
C'est qu'il y a un problème.
Après, bon, les mauvaises langues pourraient dire que, bon, comme c'est un hommage à un film noir, on pense au film noir, on pense peut-être à Chandler. Et Chandler, il a écrit Le Grand Sommeil. Donc, j'exagère quand je dis ça, bien sûr. Mais bon, c'est un peu, il y a un petit côté soporifique sur un moment donné où ça dure trop longtemps, pendant un petit quart d'heure, pour arriver au twist final qui est bien. Après, Harrison Ford, il arrive un peu tard aussi. Voilà, donc c'est intelligent, c'est bien fait. Après, il y en a qui disent que Ryan Gosling, il est très 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 neutre. Moi j'ai pas trouvé qu'il était bon. Et après, au niveau du comment dirais-je, c'est le fait surtout que c'est contemplatif et que c'est un peu intellectuel. C'est-à-dire que les gens qui vont y aller pour avoir un pur divertissement, automatiquement, ils vont être forcément un petit peu déçus, et surtout s'ils ont pas vu le premier. Ça, c'est évident.
En tout cas, vous le conseillez quand même.
C'est à voir de toute manière, parce que il y a plein de thèmes qui sont vraiment intéressants. Visuellement, c'est très réussi. Et puis après, il y a toujours ce petit effort dans les films de Villeneuve, comme dans Arrival ou Enemy. Il y a ce côté cérébral. Donc c'est de la science-fiction intelligente. Mais d'un autre côté, voilà, ça peut désarçonner, mais c'est vraiment quelque chose d'immersif. Et donc, du coup, on entre dedans. On peut en sortir, on peut re-rentrer, c'est selon sa propre sensibilité, mais c'est à voir, c'est sûr.
Blade Runner 2049 dans les salles depuis le 4 octobre. Merci beaucoup. Et puis, on retrouve bien sûr votre avis sur l'œilcinéphile06.com sur Blade Runner. Et puis, nous, on se retrouve dès ce soir en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. Stéphane, je vous souhaite une belle semaine.
Merci. Ben vous aussi.
Ensoleillé?
Oui, oui.
Ouais, ça va. Oui, on envoie un petit peu.
Oui, oui.
ça va,
c'est clair. Voilà.
Merci beaucoup. À très
Allez.
Vite.
Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.
De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.